Jusqu'au 31 mai avec Audi Now, repartez sans attendre au volant de l'Audi dont vous avez toujours rêvé. Profitez notamment de l'Audi A1 Sportback à partir de 290€ par mois avec apport. Rendez-vous chez votre partenaire Audi.
Offre location longue durée valable du 21 au 31 mai 2024 pour une Audi A1 Sportback 25 TFSI Advanced. Premier loyer de 3 000€ suivi de 36 loyers de 290€ réservé aux particuliers sur 30 000 km dans le réseau participant sur une sélection de modèles disponibles en stock. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr. Now signifie maintenant.
Au quotidien, prenez les transports en commun.
BFM Business présente votre rendez-vous de référence de la fin de journée avec la grande interview des acteurs de l'actualité économique et politique. Et avec les experts du soir, débat sans concession autour des sujets du jour. Good evening business, Guillaume Paul.
18h, bientôt 18h, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Business dans l'actualité ce soir. Il y a donc cette rumeur, cette fausse rumeur que Gabriel Attal s'est dépêché de venir démentir à l'Assemblée. Non, le gouvernement ne puisera ni dans le livret A, ni dans l'épargne en général pour aller chercher quelques milliards supplémentaires. On va écouter le Premier ministre dans un instant. Sinon, à Taïwan, figurez-vous que le leader mondial des semi-conducteurs, TSMC, a interrompu brièvement, dit-il, sa production après le séisme qui a frappé l'île la nuit dernière. Brièvement, ça peut vouloir tout dire et son contraire, et ça inquiète beaucoup, beaucoup de secteurs industriels. On va aller sur place dans un instant, on parlera de ça avec nos experts dans quelques minutes, et puis on parlera aussi de cette loi qui est arrivée à l'Assemblée pour booster l'attractivité de la place financière de Paris. On parlera de la polémique sur les polluants éternels. Il y avait beaucoup de monde devant l'Assemblée, 600 salariés du groupe SEB aujourd'hui pour manifester contre cette proposition de loi. Puis on parlera du classement Forbes qui est arrivé. Alors oui, Taylor Swift est dedans, mais vous avez quand même aussi 11 Français qui débarquent dans le classement le plus couru du monde. Voilà le programme non exhaustif. On est ensemble jusqu'à 20h. Bonne soirée.
Good evening business, le journal.
Donc ce séisme, pour commencer, qui a frappé Taïwan, séisme d'une magnitude supérieure à 7 la nuit dernière, le dernier bilan fait état d'au moins 9 personnes tuées et de plus de 9000 blessés. L'une des conséquences immédiates, c'est que beaucoup d'entreprises ont interrompu leur production. TSMC dit l'avoir interrompu brièvement. Ça inquiète beaucoup d'industriels. Marion Zipfel est la correspondante de BFM Business dans la région Asie.
TSMC compte 12 sites de production à Taïwan. Et même si toutes les fabs, les usines de fabrication des semi-conducteurs sont situées à plus de 4 heures de Hualien, la zone la plus fortement touchée par le séisme, tous les sites ont connu des perturbations, ont connu des interruptions plus ou moins longues de la production afin d'inspecter les équipements, afin d'évaluer l'impact du séisme sur la production. Selon certains experts, ces perturbations pourraient d'ores et déjà avoir des impacts sur toute la chaîne logistique des semi-conducteurs en Asie. De façon plus général, ce séisme illustre une nouvelle fois la problématique de la concentration de la production des semi-conducteurs à Taïwan. Taïwan vulnérable sur le plan géophysique, vulnérable sur le plan géopolitique. TSMC, qui contrôle à lui seul près de 60% du marché mondial des semi-conducteurs, entend bien rester à Taïwan, mais se développe à l'international avec des usines aux États-Unis, au Japon et une première implantation en Europe à Dresde, avec un début de chantier prévu pour le premier semestre 2024.
Voilà, Marion Zipfel, correspondante de BFM Business dans la région Asie. On parlera de la TSMC dépendance, bien sûr, avec nos experts tout au long de la soirée. En France, je vous disais, il y a donc cette chasse aux milliards qui commence sérieusement à crisper les esprits. Tous les jours, désormais, vous avez soit une piste, soit un ballon d'essai qui est lancé. Et il y a une sacrée rumeur qui a couru ces dernières heures. Rumeur selon lesquelles le gouvernement entendait aller taper dans le livret A et l'épargne des Français pour trouver quelques milliards. Gabriel Attal l'a rapidement démenti, cette rumeur, à l'Assemblée. Écoutez.
Dans cette même logique que nous allons travailler avec plusieurs parlementaires de la majorité qui accompagneront le gouvernement dans les prochaines semaines, dans cette même logique de taxation des rentes inframarginales d'énergéticiens ou de profits induits liés à la spéculation dans le cadre de l'inflation. Pas pour aller chercher, comme je peux le lire ici ou là, le livret A ou l'épargne des Français. La vraie différence entre nous et les oppositions dans cet hémicycle, c'est que nous ne nous opprendrons jamais aux Français qui travaillent, aux fruits de leur épargne, aux Français qui ont travaillé toute leur vie. C'est ça la vraie différence entre vous et nous.
Voilà Gabriel Attal cet après-midi à l'Assemblée nationale. Où le gouvernement va-t-il aller chercher les milliards dont il a besoin? Peut-être en taxant les rentes, comme disait le Premier ministre. Par contre, toujours pas question vraiment d'augmenter les impôts. Bruno Le Maire l'a encore redit ce matin dans le journal Les Échos, dans une tribune qu'il a signée. Je refuse de céder à la facilité coutumière des temps difficiles, écrit notamment le ministre de l'Économie et des Finances. 18h04, et alors pendant que justement Gabriel Attal s'agitait dans l'hémicycle, ça s'est aussi agité devant l'Assemblée nationale. Bonsoir Nathan Campo. Il y avait environ 600 salariés de CEP qui étaient mobilisés pour répondre à la polémique du moment, cette proposition de loi qui entend lutter contre ce qu'on appelle les polluants éternels, c'est ça Nathan?
Oui, si la loi passe, 3000 d'entre nous seront au chômage. Voilà le message martelé aujourd'hui par les salariés et syndicats présents devant l'Assemblée nationale. Pointer du doigt donc ces PFAS, ces polluants éternels utilisés pour produire des poêles dans l'usine du Rumi, notamment en Haute-Savoie. Des poêles principalement destinées à l'export. Derrière les poêles, nos emplois. L'écologie, oui, nous emploie aussi. C'est ce qu'on pouvait lire sur les pancartes des manifestants. Les syndicats et salariés l'assure, la production est respectueuse de l'environnement.
Tefal a fait un bond en avant au niveau technologique. Et tous les produits qu'il utilise aujourd'hui, ils ont une innocuité totale pour la santé. C'est reconnu par des scientifiques.
Je vais très bien, moi, il n'y a pas de souci. Moi, il me reste 10 ans à faire avant ma retraite. Moi, je me vois mal à 52 ans aller pointer au chômage et essayer de trouver du boulot, quoi.
Même son de cloche pour la direction de Tefal et Seb. Stanislas de Gramont, directeur général du groupe, s'appuie sur la science pour défendre sa production.
Vous avez un certain nombre d'autorités internationales qui sont censées d'ailleurs protéger les consommateurs et les citoyens, qui ont émis un point de vue scientifique sur ces sujets-là. Ce point de vue est balayé d'un revers de la main sur des questions d'amalgame. Ah oui, mais comme on ne sait pas, on va mettre tous les PFAS. Ben nous disons non, parce que nous pensons qu'il y a une autre manière de faire la loi qui fait appel à la science, qui fait appel à la concertation, qui fait appel à la raison et au bon sens. Et voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui.
De nouvelles études européennes sur les PFAS sont attendues dans quelques mois. Le projet de loi sera présenté demain à l'Assemblée nationale et suscite déjà la réserve du gouvernement.
Merci beaucoup Nathan. Nathan Cocampo parlera de ces PFAS, hein, bien sûr, d'ici 20h avec nos experts sur BFM Business. Pendant ce temps, l'Europe, figurez-vous, qui annonce qu'elle va lancer toute une série d'enquêtes contre des acteurs chinois du photovoltaïque cette fois. Des géants que Bruxelles soupçonne évidemment d'avoir bénéficié de très très larges subventions susceptibles d'avoir faussé la concurrence, évidemment. Et puis, dans l'actualité des entreprises, CMA-CGM va rejoindre Renault et Volvo comme membres fondateurs de Flexis, entreprise dédiée à la production de véhicules électriques utilitaires légers. Flexis, qui, ça se précise, va bien lancer début 2026 une camionnette électrique dite polyvalente. Mais Luca De Meo, le DG de Renault, en a dit un petit peu plus à Justine Vassone ce matin. Écoutez.
On présente une initiative ensemble qui tourne autour d'un produit révolutionnaire qui est Flexivan, qui est un nouveau projet qu'on a mis ensemble depuis maintenant deux ans et demi, et qui amènera, je pense, à complètement transformer le segment des véhicules utilitaires, surtout pour les livraisons de last mile, comme on appelle, donc plutôt le côté urbain. Donc on fait une voiture avec qui est née pour être électrique, avec un skate électrique très modulable, avec une nouvelle architecture électronique, avec la voiture qui est connectée au cloud et un concept de carrosserie aussi qui donnera beaucoup de flexibilité dans la production. Et la voiture sera produite à Sandouville comme on a annoncé vendredi.
Voilà Luca De Meo, le DG de Renault ce matin au siège du groupe à Boulogne-Billancourt. 18h07, on va sur les marchés.
Votre rendez-vous avec AG2R La Mondiale. Épargne, retraite, santé, prévoyance. Avec AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain.
Les marchés, Étienne Brack, bonsoir. Euronext à la Défense pour BFM Business.
Bonsoir.
Comment ça s'est passé ce mercredi, mon cher Étienne?
Dans le vert, puisqu'après une petite baisse hier, souvenez-vous, de 0,9%, vous avez le CAC 40 qui repart déjà de l'avant, plus 0,3% ce soir à la clôture, 8153 points, grâce notamment à des indicateurs aux États-Unis qui montrent que ça y est, ça ralentit un petit peu, notamment dans l'industrie, et puis notamment l'inflation dans le secteur des services. Donc ça, ça rassure les investisseurs, même si rien n'est gagné en termes de baisse de taux, puisqu'encore aujourd'hui, l'un des membres de la Fed a estimé qu'il n'y aura qu'une baisse, et ça sera en fin d'année. Donc vous voyez, c'est toujours le brouillard sur ces perspectives monétaire, mais ça n'empêche pas le CAC 40 de progresser ce soir grâce notamment à une accalmie sur l'obligataire, un 10 ans américain à 4,38. À noter par contre, et ça c'est un élément marquant de ces dernières séances, l'once d'or qui continue de grimper. Figurez-vous qu'aujourd'hui il est au-delà des 2 300 $ cette once d'or. À noter que le pétrole est toujours sur des plus hauts de 5 mois à $89 le baril de Brent, et donc l'indice parisien qui grappille 0,3% ce soir à la clôture, toujours très proche de ses plus hauts historiques à 8 153 points.
Merci beaucoup beaucoup Étienne. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street. On est à la mi-séance. Le Dow Jones quasiment stable, hein, 39 202 points. Et puis l'indice Nasdaq de son côté qui grappille 0,4%, 16 132 points. 16 312, autant pour moi, 16 312 points. Tout ça à la mi-séance, bien sûr. 18h09, beaucoup de choses dans le prochain quart d'heure. Cette loi qui est arrivée aujourd'hui à l'Assemblée pour booster l'attractivité de la place de Paris. Et puis TSMC qui dit avoir interrompu brièvement sa production de semi-conducteurs après le séisme à Taïwan. Même brièvement, vous allez voir que ça inquiète pas mal de secteurs industriels quand même. Tout ça dans un instant, à tout de suite.
BFM Business présente...
Tous les jours, j'entends quoi ? De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. Mais
vous j'ai dit qu'il y a un vrai souci, mais alors... il faut créer de l'emploi.
Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit.
Il suffit d'écouter BFM Business.
Voilà, magnifique.
Guillaume Paul, Good Evening Business.
Allez, 18h13, on est reparti dans Good Evening Business. Je vous le disais, c'est une proposition de loi très attendue qui a commencé à être examinée en commission à l'Assemblée nationale. Proposition de loi pour renforcer encore l'attractivité de la place financière de Paris. On va en parler avec Jean-Charles Simon qui est avec nous. Bonsoir Jean-Charles, bienvenue, délégué général de Paris Europlace, qui promeut justement, c'est l'objet de Paris Europlace, c'est promouvoir l'attractivité.
C'est notre raison d'être.
C'est votre raison d'être. D'ailleurs, vous avez été associé étroitement aux travaux qui ont débouché sur cette proposition de loi. Renforcer l'attractivité de la place financière de Paris. Déjà, si on fait un peu de pédagogie en 30 secondes, ça veut dire quoi, Jean-Charles, concrètement ?
Ça veut dire se donner les armes pour poursuivre la dynamique vraiment favorable, vraiment marquante, qui se passe depuis pas mal d'années, ouais, en faveur du développement de la place financière de Paris. Et c'est très concret. En 5 ans, fin 2017, fin 2022, 20 000 emplois dans Paris, liés aux activités financières. Et ça va très au-delà du seul effet Brexit. Il y a effet Brexit qui existe, qui est de la relocalisation d'activités de Londres vers l'Union européenne, et dont Paris est le plus grand bénéficiaire. Mais c'est aussi un mouvement plus global où il y a les bonnes conditions pour faire de la finance en France. Et il faut donc faire en sorte que ça se poursuive. D'abord parce qu'il y a une compétition qui est féroce en la matière, en matière d'emploi, en matière de capitaux. Les dernières années, c'est aussi plus 3 milliards de balance des services financiers en plus pour la France. Pour un pays qui a eu un gros déficit commercial, c'est quand même très appréciable. Et donc tout ça, il y a une bataille pour tout ça qui est très féroce entre les grandes places financières européennes. Et il faut se donner les moyens, il faut se donner les armes de pouvoir continuer à être sur cette bonne dynamique et d'avancer.
Paris, première place financière européenne aujourd'hui, voilà, qui a dépassé Londres en termes de capi depuis un an et demi, c'est ça.
Capitalisation des marchés actions, effectivement. Ouais. Après, sur l'ensemble des caractéristiques des places, Londres reste une place plus grande que Paris. Ouais. Mais dans l'Union européenne, Paris est, je pense, clairement, sans discussion possible, la première place de l'Union européenne.
Et ça, vous dites, c'est pas... Pardon de dire comme ça, par défaut, Jean-Charles, parce que Brexit, parce que difficulté de l'Allemagne aujourd'hui, politique, etc., etc.
Non, c'est aussi... Il y a des facteurs structurels très forts. Les facteurs structurels très forts, c'est qu'on a un bassin de grandes entreprises performantes en Ile-de-France qui est sans équivalent dans les autres métropoles de l'Union européenne. 38 des sièges du CAC 40 et Paris... La France est très concentrée sur l'Île-de-France et ça profite beaucoup à la place financière. Pareil pour les grandes écoles, les universités de prestige qui sont à Paris ou autour de Paris. Ça, c'est une force en termes de pool de talents, de compétences à employer qui est assez extraordinaire. Je donne un exemple. Une grande banque américaine a fait son centre de R&D mondial à Paris grâce à justement cette qualité des talents. Grâce aussi, et donc j'arrive à la dimension plus politique, de politique économique qui permet ça... Grâce aussi, par exemple, à un outil comme le crédit impôt recherche. Oui. Sans le crédit impôt recherche, ça n'aurait pas été possible.
Vous avez vu que certaines critiques aussi... vis-à-vis du crédit impôt recherche sont ressorties ces dernières heures. Vous
l'avez mais justement, il faut faire comprendre que tout ça, c'est des emplois très qualifiés, qui sont très volatiles. C'est pour ça que la compétition est féroce. Je le disais au Sénat ce matin, on peut avoir ces emplois qui arrivent, mais qui disparaissent aussi vite qu'ils sont arrivés, parce que c'est très facile de démonter une salle de marché, de transformer un desk d'une grande capitale à une autre. Ouais. Donc il faut se donner les moyens de continuer à être compétitif là-dessus.
Ça veut dire, alors aller plus loin, il y a des propositions d'ailleurs dans cette proposition de loi, on va en parler dans un instant, ça veut dire aussi conserver le gap sur tout ce qu'on appelle stabilité, visibilité, voilà, ne pas revenir
exactement,
évidemment, sur tout ce qui a été fait quelques années. Quoi.
Un des grands acquis des dernières années, peut-être depuis une dizaine d'années, en fait, on va de l'avant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de marche arrière dans aucun domaine. C'est vrai des grands impôts, c'est vrai de la question du droit du travail, c'est vrai de dispositifs spécifiques comme le régime des impatriés qui compte beaucoup pour le secteur financier. Il n'y a pas eu de marche arrière. Il
n'y
a
taxe, barème Macron.
Voilà,
oui, mais tout ça,
il y a eu des petites améliorations
ou des
grosses.
Tout ça s'est fait entre 2015 avec le CICE, 2015, 2007, 2018, allez, mais... Après, il ne se passe pas grand-chose, finalement, Jean-Charles.
Alors, effectivement, après, il y a eu des crises qui ont fait que les choses étaient moins à l'ordre du jour. Donc, nous, on attendait et on salue cette nouvelle proposition de loi parce que, justement, depuis la loi Pacte de 2019, il n'y avait plus eu de nouvelles mesures adoptées pour améliorer notre environnement. Alors que, pendant ce temps-là, la compétition est très, très, très vive, très dure. Je citais, le Royaume-Uni en dehors de l'Union européenne, c'est des nouvelles dispositions qui ont été prises depuis le Brexit, par le Royaume-Uni, qui sont des dispositifs avec lesquels il faut que l'Union européenne ait conscience qu'elle doit se mettre au niveau. Et puis, au sein de l'Union européenne, on a un pays, par exemple, comme l'Italie, qui a des régimes très compétitifs pour attirer des talents des pays étrangers. Oui. Donc il faut que nous aussi on soit très bons là-dessus pour rester dans le coup et continuer à créer ces emplois et attirer ces capitaux.
Donc en quelques minutes, le leitmotiv, faciliter le financement par le marché, voilà, c'est ça l'idée de base. 2-3 minutes pour donner quelques mesures fortes, faciliter les intros en bourse. C'est trop compliqué aujourd'hui d'aller en bourse.
Disons que, alors de toute façon aujourd'hui le marché n'est pas très favorable à l'introduction en bourse parce que le cycle est le plus défavorable, c'est-à-dire qu'on a des valorisations dans le non-coté qui sont très élevées par rapport à ce qui est acceptable par les marchés. Donc il faut que l'ajustement opère. Après, que veut faire le texte ? Eh bien, notamment se donner les conditions que les introductions en bourse elles se fassent à Paris. Parce qu'il n'y a rien de plus tentant pour un émetteur qui arrive nouvellement en bourse de faire son marché et de regarder quelle est la place qui lui offre les meilleures conditions. Aujourd'hui, par exemple, Amsterdam, pour un jeune entrepreneur de la tech qui vient se coter en bourse, qui est courtisé par tout le monde, il sait qu'à Amsterdam, il pourra obtenir ce qu'on appelle des droits de vote multiples, c'est-à-dire pour lui-même, en tant que fondateur, beaucoup de droits de vote pour une seule action par rapport aux actions ordinaires. Et ça, c'est un atout parce qu'il se dit que comme ça, il ne va pas être renversé dans les prochaines années.
Même minoritaire.
Il va garder le contrôle du management courant de son entreprise. Et ça, c'est important. La loi, la proposition de loi actuelle le prévoit et on trouve que c'est un très bon point. Oui. Il faut le faire de manière équilibrée, bien sûr, parce qu'il faut protéger tous les investisseurs. Il ne faut pas que les autres investisseurs soient complètement prisonnier d'un déséquilibre de pouvoir qui serait à la fois trop durable et trop excessif. Mais le principe est très bon et ça redonne de l'attractivité à Paris.
J'énumère beaucoup de propositions, mais il y en a 2-3 qui ressortent un petit peu du lot. Le texte veut rendre moins onéreux le licenciement des opérateurs de marché. C'est quoi là l'histoire en quelques mots?
Alors là, l'histoire, c'est que nos conditions de départ, nos barèmes d'indemnité de licenciement, que ce soit les indemnités de licenciement légales, conventionnelles ou le fameux barème prud'homal qu'on appelle barème Macron sur les indemnités en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ça, ce sont aujourd'hui les référents qui servent, c'est notamment les valeurs plafonds, qui servent dans les échanges et dans les discussions, dans les transactions, quand il y a des départs, soit volontaires, soit contraints. Et aujourd'hui, en France, ça aboutit pour les rémunérations exceptionnelles. Oui. Ce n'est pas les autres qui sont concernés. Hein. On n'est vraiment même pas dans le 1%, on est dans le 0,1 ou 0,1% des rémunérations, où là, en fait, la France, en appliquant le barème, ça fait des niveaux considérablement plus élevés que dans les autres pays. Vous donnez un exemple, ça va coûter, pour un trader très bien payé, 10 fois plus cher à Paris qu'à Londres, s'il faut se séparer de lui, parce que, par exemple, son activité est complètement déprimée et qu'il n'y a plus de business. Donc, quand il va falloir le faire, ça arrive, eh bien, à ce moment-là, il faut que le coût reste raisonnable, parce que là aussi, sinon, les opérateurs vont se dire, oh là là, j'avais installé des équipes à Paris, je vais les remettre à Londres, parce qu'à Paris, ça coûte trop cher.
Donc, il faut faire quoi? Il faut faire une entorse, une exception au code du travail?
Pas du tout. C'est une mesure pour une population bien désignée, qu'on appelle les preneurs de risque, en disant qu'il est prévu dans le droit européen et notamment par l'encadrement par la BCE, et de dire pour ces populations-là, notamment, on ne va pas tenir compte de la partie variable quand on va regarder le package de rémunération. Et puis, ça, ce n'est pas encore la proposition de loi, mais on espère que ça le sera, on va aussi considérer qu'il y a une sorte de plafond en valeur absolue. Ouais. Aujourd'hui, c'est des valeurs en mois, en mois en fonction de l'ancienneté de la personne. Donc, par exemple, 12, 14, 16 mois en fonction de votre ancienneté dans le groupe. On dit qu'il faut un deuxième plafond en valeur absolue parce qu'en fait, il a été pensé pour les 99% de rémunération, pas pour les rémunérations les plus exceptionnelles.
Il nous reste deux minutes. Genre, alors, il y a beaucoup de propositions. Je vois notamment rendre une place financière plus attractive, c'est aussi favoriser la tenue à distance des assemblées générales d'actionnaires. C'est des petites choses aussi comme ça.
Oui, alors il y a des petites choses comme ça qui sont, vraiment importantes. Par exemple, pouvoir faire un conseil d'administration aujourd'hui avec des administrateurs quand vous êtes sur les comptes, l'adoption des comptes, aujourd'hui, il faut que les gens, pour être comptés comme présents, soient physiquement présents. Donc là, maintenant, on pourra.
C'est les fameux quorums.
Voilà, on pourra considérer que la visio, qui est devenue une pratique un peu universelle de tout le monde, permette de vous considérer comme présent. Vous faites le boulot, vous êtes là à la réunion, et donc on vous considérera comme présent demain grâce à, à ce toilettage de la loi, à cette modernisation qui est utile.
30 secondes, Jean-Charles, j'ai l'impression qu'il y a toujours un gros sujet en France, c'est d'arriver à flécher l'épargne des Français vers la bourse. Ça, on a traversé mille et une crises, beaucoup ne sont pas revenus,
et
comme on dit.
Et ça, ça fait des défauts. Nous plaidons pour qu'il y ait des choses, notamment sur le PEA et le PEA-PME, qui soient des vrais assouplissements. D'abord pour le PEA-PME, qui est plus de PME éligibles, plus d'entreprises éligibles, donc en assouplissant les critères. Et puis qu'il y ait un geste, ça existe par exemple au Royaume-Uni, pour inciter les gens à aller dans un produit action pure. C'est aussi une proposition qui pourrait se retrouver dans ce que Bruno Le Maire a évoqué comme un produit pan-européen, qui est aussi une belle idée.
C'est un vieux combat, ça.
Oui, mais après tout, regardez, dans le livret A, vous avez zéro prélèvement sous plafond, bien sûr. Parce que là, il s'agit de faire de l'épargne populaire en action de manière très massive auprès de beaucoup de Français pour les habituer à avoir des actions. Il faut qu'ils regardent BFM Business et il faut qu'ils soient habitués pour avoir la compréhension des mécanismes financiers. Donc là, on ne parle pas d'un produit pour gens riches, on parle d'un produit pour tout le monde avec un plafond donc relativement bas, type livret A, mais qui serait un produit dans lequel il y aurait zéro taxation et même pas les prélèvements sociaux qui aujourd'hui pèsent lourd pour quelqu'un qui n'est pas imposable parce qu'il se dit finalement, dans le livret A, j'ai rien du tout, alors que si je vais sur un PEA, j'aurai les 17,2% de prélèvements sociaux. Qu'on peut vraiment l'encourager et faire une grande mesure d'éducation financière populaire.
Si une vraie loi, si une loi pouvait résoudre tous vos problèmes d'attractivité en France, ça serait fabuleux, Jean-Charles. Voilà, c'est pas le cas. Celle-là, en tout cas, va tenter d'améliorer les choses.
C'est déjà un très bon point.
Au Sénat, donc à l'Assemblée nationale le 9 avril, et puis elle arrive au Sénat, cette proposition de loi, début mai. Voilà, pour cette proposition de loi pour accroître l'attractivité de la place financière de Paris. Merci beaucoup, Jean-Charles.
Merci à vous.
De passer, Jean-Charles Simon, le délégué général de Paris Europlace avec nous ce soir sur BFM Business. Merci Jean-Charles Latrève. 18h24, la TSMC dépendance. On en parle dans un instant sur BFM Business. A tout de suite.
Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
Allez, 18h25, je vous disais, on voulait reparler un petit peu de ce qui s'est passé à Taïwan. Séisme de magnitude supérieure à 7 la nuit dernière. Dernier bilan fait état au moins de 9 personnes tuées, de plus de 900 blessés. Et je le disais, il y a beaucoup d'entreprises, dont TSMC, leader mondial des semi-conducteurs, qui a annoncé avoir interrompu brièvement ses activités. Brièvement, c'est un terme qui peut vouloir dire tout et son contraire. Jérôme Valut est avec nous pour en parler. Bonsoir Jérôme.
Bonsoir.
Merci
d'être
avec nous, enseignant à Sciences Po, associé au cabinet Cassiopée. On s'est dit brièvement, ça peut être quelques minutes, mais on s'est posé la question s'il s'arrête des heures, voire des jours. Mais qu'est-ce qui se passe dans le monde, Jérôme?
Alors, c'est le principal. Ils ont effectivement 37% de parts de marché. Les autres, c'est les Chinois.
Ouais.
C'est pas les Samsung, c'est pas les Intel qui prendront la place. Donc, le marché s'effondre. Mais les deux risques, c'est effectivement un séisme encore plus fort. Il faut savoir quand même qu'il y a eu un séisme en 2022. Un séisme en 2016 qui est donc autour de 6-5 sur Richter et qu'ils ont arrêté 3 heures. Donc 7-2, c'est beaucoup, c'est plus, mais ils sont sur la côte ouest de Taïwan, la faille est sur la côte est et le séisme a lieu sur la côte est. Donc on le sent moins. Et toutes les usines, comme celle par exemple de Kroll à côté de Grenoble pour
ASML.
Microelectronics.
ST Microelectronics.
Voilà, c'est ça. Voilà. Oui. sont fabriqués sur des pilotis qui s'ancrent dans le sol. Donc tout ça est fait pour ne pas trembler en cas de séisme.
Pardon,
donc, ils ont arrêté, mais
j'évoquais un scénario qui pourrait se poser un jour. C'est l'invasion de Taïwan par la Chine,
évidemment,
tout simplement.
Oui,
oui, mais alors est-ce que tous ces scénarios
même,
entre ces interruptions et l'invasion potentielle de Taïwan par la Chine, est-ce qu'on ne s'interroge pas assez sur, non, mais... suffisamment sur notre TSMC dépendance quand même.
Mais totalement. Et je pense qu'on n'est pas les seuls. Quand l'Amérique dit on va regarder plutôt du côté de l'Asie, c'est qu'un missile sur la ville où sont les usines de TSMC et le monde électronique s'éteint. Enfin, s'arrête.
Oui.
Comme d'ailleurs, à un moment, il y avait un cargo qui était coincé dans le canal de Suez. 10 jours de microprocesseurs bloqués, ça ralentit totalement le marché.
Et dans cette configuration, on voit les Américains qui accélèrent, Intel qui accélère, avec la bénédiction de l'administration américaine et l'Europe qui continue à jouer l'idiote du village, quelque part.
On non, on essaye, mais enfin, on n'a pas. Alors, si, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que fabriquer une puce, c'est plein de composants. C'est d'abord des gens qui la conçoivent, c'est pas les Chinois. Et c'est pas les Taïwanais. Ça, c'est les Américains, essentiellement les Américains. Et c'est Nvidia dont on a parlé la dernière fois. C'est Google, c'est Apple. Ils conçoivent leurs puces. Après, il faut les fabriquer. Mais pour les fabriquer, il faut du matériel. Et là, le leader mondial, il est aux Pays-Bas. Donc, en fait, tout ça est un...
C'est ASML, donc, voilà.
Voilà. Et donc, on a finalement, c'est un imbroglio. Tout le monde a besoin de tout le monde. Et donc, c'est pas en faisant tomber un qu'on arrivera à faire tomber la totalité.
Donc, on a raison de pas s'inquiéter plus que ça.
Si, il faut s'inquiéter, bien sûr. Il faut s'inquiéter.
Je pose la question, j'ai vu ASML, le gouvernement néerlandais, qui a dû signer un chèque de 2,5 milliards, 3 milliards à ASML.
Oui.
Pour ne pas que tout simplement le groupe aille s'implanter ailleurs ou délocalise massivement.
Absolument, mais on est bien dans un je te tiens par bichette, hein, tous, effectivement, entre l'Europe qui n'a pas grand-chose, mais quand même quelques équipementiers très puissants, la Chine qui a, elle, tous les matériaux qui permettent de fabriquer les puces, en particulier le silicium, les États-Unis qui ont la conception, et Nvidia est sans doute un des meilleurs concepteurs de puces sur le marché aujourd'hui, ce qui explique ça. D'ailleurs, on a regardé le cours d'Nvidia, il a baissé, mais pas tant que ça.
Oui.
Voilà, donc je crois que tout le monde s'inquiète, et effectivement s'inquiète d'un monopole chinois ou d'un monopole asiatique sur le sujet, mais effectivement, c'est sensible.
Est-ce que pour l'Europe aussi, il n'y a pas l'inquiétude de se dire, ben voilà, peut-être qu'on sera toujours très dépendant de Taïwan, de TSMC, de la Chine, mais nous, on va essayer de réagir, mais on ne sera pas... présent sur la qualité, sur la puce haut de gamme, finalement.
Absolument, parce que pourquoi la Chine ne produit pas des puces haut de gamme? C'est parce qu'ils ne savent pas concevoir les puces haut de gamme. Et qu'aujourd'hui, les puces chinoises ne sont pas du tout à la hauteur du marché. Donc, pour le moment, la conception, elle est bien aux États-Unis et elle reste aux États-Unis.
Bon. Donc, vous invitez quand même à accélérer en Europe, on est d'accord.
Ah oui, mais enfin, est-ce qu'on a...
Et à partir de quoi? À partir de qui? D'ASML, d'autres acteurs?
Oui, enfin, on n'a pas les acteurs qui permettent finalement de se poser la question. STMicroelectronics, à la rigueur, mais ils sont tout petits, c'est une goutte d'eau dans la mer. Donc, on n'a pas vraiment ces acteurs-là.
Malgré les pérégrinations de Thierry Breton ces années et de tous les responsables européens.
Oui, mais bon, après, il peut y avoir un grand plan européen pour relancer ce sujet, mais pour le moment, c'est, à mon avis, c'est au niveau de l'Europe.
Ça aurait fait un beau sujet de campagne électorale pour les Européennes.
Absolument.
Il reste quelques semaines, allez, on peut encore y croire.
On peut encore.
Merci beaucoup, Jérôme. Merci de passer nous voir. Quelques minutes. Jérôme Valut, enseignant à Sciences Po, associé du cabinet Cassiopée. Merci beaucoup, Jérôme, d'être passé nous voir.
Good evening business. Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie.
Allez, 18h34, on est reparti sur BFM Business. Bonsoir Audrey.
Bonsoir Guillaume et bonsoir à tous.
Audrey Tcherkov avec nous, bien évidemment. Et puis nos experts sont là. Emmanuel Lechypre est là, évidemment.
Bonsoir.
Bonsoir Emmanuel. Bruno Coquet est avec nous. Bonsoir Bruno.
Bonsoir.
Bienvenue. Docteur en économie, chercheur associé à l'OFCE. Puis Nathalie Janson qui est avec nous. Nathalie, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur à Neoma Business School. Alors, cette chasse aux milliards qui commence légèrement, Audrey, à crisper les esprits parce que tous les jours, il y a des pistes, des ballons d'essai qui tournent. Et il y a même eu une sacrée rumeur ces dernières heures.
Alors, rumeur, en effet, selon lesquelles le gouvernement entendait taxer les livrets A et l'assurance vie pour faire rentrer des milliards, démenti formellement de la part de Gabriel Attal tout à l'heure à l'Assemblée. On écoute et on en débat tout de suite.
C'est dans cette même logique que nous allons travailler avec plusieurs parlementaires de la majorité qui accompagneront le gouvernement dans les prochaines semaines, dans cette même logique de taxation des rentes inframarginales d'énergéticiens ou de profits induits liés à la spéculation dans le cadre de l'inflation. Pas pour aller chercher, comme je peux le lire ici ou là, le livret A ou l'épargne des Français. La vraie différence entre nous et les oppositions dans cet hémicycle, c'est que nous ne nous opprendrons jamais aux Français qui travaillent, aux fruits de leur épargne, aux Français qui ont travaillé toute leur vie. C'est ça la vraie différence entre vous et nous.
Eh bien, ça, c'est dit. Au moins, c'est clair. Bon, après, sur le livret A, on a un problème de riche. Parce qu'on a un trop plein d'argent et on ne sait pas quoi en faire. On est quand même à une cagnotte de 420 milliards d'euros, Manu.
Oui, c'est en fait c'est étonnant parce que manifestement on veut s'en prendre aux Français qui gagnent beaucoup d'argent et en fait on veut par contre préserver ce qui est sain les Français qui ont travaillé toute leur vie mais qui finalement ont rien gagné quoi. Donc bon moi ce que je vois au fil des jours c'est que on ferme toutes les portes de ce qui n'augmentera pas, de tous les impôts qu'on n'augmentera pas. On n'a toujours pas plus de d'informations sur finalement qui va devoir mettre la main à la poche.
Non, mais on sait qu'on va taxer plus les... Enfin, on vise les chômeurs, on vise les personnes âgées, on vise les personnes malades.
Les rentes.
Les personnes âgées, pour le moment, franchement, on les vise pas énormément.
Non, mais c'est en cours.
Je sais pas ce qu'il y a dans les tuyaux pour les personnes âgées. C'est sûr, si on décidait, par exemple, de basculer de la plus de CSG sur les seniors, pourquoi pas. Mais le livret A, de toute façon, c'est qu'est-ce que vous voulez. C'est la pire des. C'est. Je sais pas quoi vous dire.
Le livret A, c'est de 420 milliards, effectivement.
C'est Nathalie, la spécialiste.
L'encours de l'assurance vie, je crois que c'est de mémoire, c'est 1700 milliards d'euros.
Oui, mais vous n'êtes pas du tout sur la même nature de choses. Hein.
Rappelons quand même que
l'assurance vie, c'est une enveloppe et que vous mettez ce que vous voulez dedans. Le livret A, c'est un petit compte rémunéré, quoi.
Oui, alors sauf que le livret A, Nathalie, c'est censé aider le financement des PME, la transition écologique, l'économie sociale et solidaire.
Le logement.
Le livret A, c'est surtout le logement.
Et peut-être bientôt le nucléaire, ça se trouve.
Oui, mais en fait, bon, ça fait partie de ces produits réglementés dont la France a le secret. Qui, en fait, qu'on aurait quand même pu faire, enfin, on aurait pu le défaire depuis quand même. Mais on ne l'a pas défait. Et comme les Français ne sont pas très élaborés dans leur façon de gérer leurs finances, eh bien voilà, l'argent est là. Mais effectivement, comme l'a dit Emmanuel,
le Français préfère de la très sécurité. Loin le zéro risque à la rémunération. Voilà.
Oui,
ce qui peut s'entendre. Hein,
oui, non, mais après, attendez, la raison pour laquelle les Français choisissent le livret A, c'est par rapport à son taux plus. Que par rapport à ce
pour le moment,
le logement social, mais c'est pas.
Oui, mais bon, je veux dire, si vraiment vous voulez du rendement, c'est quand même pas avec le livret A que vous allez en avoir. Mais effectivement, comme c'est un taux garanti et que finalement, compte tenu de l'inflation qui est revenue à des niveaux relativement contenus, eh bien, il redevient attractif, d'autant plus qu'il n'est pas fiscalisé. Voilà.
Bruno Coquet, comment est-ce que vous voyez cette séquence de cet après-midi? Je veux que Gabriel Attal se soit dépêché d'aller à l'Assemblée démentir rumeur, une fake news sortie de nulle part, ça dit quand même long sur l'état d'esprit.
C'est une moitié fake news, et c'est quand même lui qui a annoncé qu'il allait favoriser les gens qui travaillent par rapport aux gens qui ne travaillent pas. Donc du coup, les gens qui ne travaillent pas, c'est une grande masse de gens. On peut entendre, donc il disait ça dans le contexte assurance chômage, mais ça peut s'entendre de manière élargie. Donc les gens qui ne travaillent pas, c'est les rentiers aujourd'hui, c'est les rentiers, c'est entendant par des gens qui touchent des intérêts de leur livret A, d'assurance vie, et puis d'autres, je ne sais pas. Ça peut être les retraités, ça peut être tout le monde en fait.
Sur la partie rente, Bruno, là on a une commission et un groupe qui va travailler justement, qui réunit l'ensemble de la majorité sur le sujet pour savoir comment taxer les rentes.
Alors après, il y a les rentes, il y a les stocks et il y a les flux. Ouais, donc la rente, c'est le flux, c'est pas le stock. Donc du coup, si on touche aux produits de l'épargne, comme on dit, ça va être sur des dividendes, ça va être sur des intérêts, mais normalement, c'est pas pour prendre un bout du stock qui est certes de la surépargne. Par rapport au Covid. Pourquoi les gens ont épargné parce que d'un seul coup, parce qu'ils avaient trop d'argent, mais bon, même y compris parmi les faibles revenus, le livret d'épargne populaire, les gens ont épargné quand même. Donc du coup, il y a cet aspect-là, c'est-à-dire qu'on a dépensé beaucoup pendant cette période, et puis en même temps, on leur explique qu'on diminue leur protection sociale. Donc les gens, ils veulent une épargne liquide, surtout si elle est bien rémunérée, de manière à pouvoir éventuellement compléter cette protection sociale qui diminue, que ce soit le chômage, la retraite ou le reste.
Mais c'est vrai que c'est quand même un montant historique. Hein. Les sommes placées ont augmenté de 40% depuis début 2020.
Toute l'épargne des Français atteint des niveaux historiques.
Non, c'est le taux d'épargne surtout qui est à 18% aujourd'hui.
Ça va avec.
Oui, mais globalement, ça veut bien dire que... Alors, et c'est ça qui est vraiment très atypique de la France. C'est-à-dire que dans les pays comme les États-Unis, par exemple, il y a eu une forte accumulation d'épargne pendant le Covid. Et en fait, cette accumulation, elle a été dilapidée et le taux d'épargne des Américains est à nouveau extrêmement bas. Nous, pas du tout.
Non.
Donc nous, il y a quand même énormément, on peut se dire qu'il y a quand même énormément de l'argent qui est du déficit et de la dette publique aujourd'hui, qui est de l'argent qu'on retrouve sur les livrets A et dans l'épargne des Français. Et c'est là où vous avez ce cercle vicieux qui est quand même celui de Français qui épargnent parce qu'ils pressentent que, compte tenu du niveau de la dette et des déficits, il va peut-être y avoir des hausses d'impôts. Alors, je sais que ce qu'on appelle l'équivalence ricardienne, hein, ça a, honnêtement, ça n'a jamais été...
très prouvé.
Très fondamentalement démontré. Donc voilà, mais je pense qu'il y a quand même... C'est-à-dire que plus vous avez un État impécunieux, plus vous avez en face citoyens qui épargnent, parce qu'ils se disent...
Non, mais c'est aussi une crise de confiance.
Regardez les chiffres sur les montants...
On est passé de la pandémie à la crise de l'énergie...
Les Français ont accumulé pour leur épargne. Vous avez quand même la moitié des Français qui a aujourd'hui mis de côté plus de presque 70 000 euros pour sa retraite. Donc c'est lié aussi à ça. Et puis moi, ce qui me sidère quand même chez ce gouvernement, c'est quand même l'énergie... dépenser pour aller chercher plein de petites centaines de millions, voire quelques milliards. Enfin, je veux dire, c'est beaucoup d'efforts pour un rendement quand même extrêmement faible.
Ah bah c'est sûr qu'on est loin des 30 milliards qu'on est censé chercher sur les deux prochaines années.
C'est moins de tumultes sociaux à l'arrivée aussi.
Enfin, le point, c'est qu'ils ont essayé de taxer une rente, c'est les rentes inframarginales sur l'énergie. Et c'est quand même ça qui fait le trou budgétaire l'année dernière.
Et c'était pas fini.
Non, mais le point, c'est que l'année dernière, on avait prévu 12 milliards.
Voilà, c'est ça.
On en a touché 3.
300 millions.
Donc, du coup, déjà, essayons de faire quand on veut faire une taxe.
Oui, mais en même temps, pourquoi Bruno, parce que finalement, on est parti sur un grand projet et comme d'habitude, on a accouché d'une souris parce qu'il y a eu des exemptions, il y a eu tout un tas de trucs sur mesure qui ont fait que plein d'entreprises sont passées dans le trou du filet.
De toute façon, oui, pour rebondir, il est certain que la comparaison en plus avec les États-Unis, au moins quand ils ont épargné, ils l'ont remis dans le circuit financier, ce qui n'est pas notre cas, parce que de toute façon, le livret A, il finance le logement social, mais même pas vraiment, alors qu'en fait, les entreprises françaises ont besoin de financement, donc on est quand même dans un système qui est quand même incroyable, où on a du financement qui n'arrive pas à aller là où il faudrait qu'il aille, parce que tout simplement, les préférences des gens ne sont pas en raccord avec ce qu'il faudrait financer, c'est-à-dire un peu de risqué. En fait, c'est tout le problème. Et en même temps, comme Emmanuel l'a dit, les Français mettent de côté pour leur retraite, alors qu'on ne veut pas non plus introduire la capitalisation. Donc on marche vraiment sur la tête, parce que du coup, on serait prêt à avoir
de la capitalisation. Mais juste, les ménages français sont très peu à citer des critères non financiers dans le choix de leur placement. Ce qui les intéresse, c'est le rendement avant tout.
Comme tous les épargnants du monde. Mais en fait, il ne va pas irriguer le risque sur le marché, en fait, l'épargne française. Elle reste sur la dette française.
Bon, alors, va-t-on aller chercher ces milliards? Peut-être en taxant les rentes, a priori pas en allant ponctionner le livret A et les produits d'épargne.
Enfin, là encore, en taxant les rentes,
on va définir ce que c'est.
On verra.
Là, il y a plein d'obstacles. Et puis, on a aussi envie de leur dire, mais attendez, là, vous allez arriver avec votre... Admettons qu'on arrive à définir ce que c'est ce projet, qu'on arrive à définir ce que c'est qu'une rente, parce que alors en économie on arrive à peu près à le définir. Bon, les sur-profits,
il y a des bonnes rentes.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on va arriver à la fin de ce débat à un moment où la question ne sera absolument plus pertinente, puisqu'en fait, ces surprofits ou ces rentes, je veux dire, elles résultent d'une conjoncture absolument improbable et unique qui n'a aucune chance de se reproduire. D'un côté, un effondrement des profits au moment du Covid et une explosion des profits au moment de la guerre en Ukraine et de la vague d'inflation.
On n'a pas bénéficié.
Et donc, le problème, c'est que vous n'aurez jamais des profits qui vont se retrouver 30 à 35% supérieurs à leur niveau des années précédentes. Sauf dans un cas, et c'est là où c'est très préoccupant, c'est que quand vous avez, par exemple, des entreprises qui investissent massivement, qui vont se retrouver, par exemple, avec des pertes pendant 3, 4, 5 ans, et qui, d'un seul coup, vont trouver, finalement, vont rentrer dans leurs frais, vont engranger des profits, etc. Elles vont risquer de se retrouver avec des profits qui dépassent, si vous voulez, ces seuils-là. Et donc, vous allez pénaliser des entreprises en croissance, alors que l'entreprise qui fait une grosse marge, confort, bien planqué dans son coin, elle, eh ben, elle paiera des profits tout à fait.
D'accord, non, mais sauf qu'en réalité, la taxation sur les grands fleurons français, elle passe à côté du sujet principal, sur le fait que 80% des profits générés par les boîtes du CAC 40 françaises est fait à l'étranger.
Ouais, mais ça, vous pouvez pas
changer. Va à l'étranger, puisque...
Et va à l'étranger. Non, mais bien sûr, non, mais on aura beau augmenter les impôts.
Alors. Bah justement les impôts, on aura beau, Bruno Le Maire l'a encore dit ce matin, il persiste et signe dans une tribune que vous voyez peut-être si vous nous regardez à la télévision, genre Les Échos. Pourquoi nous n'augmenterons pas les impôts? Drôle de justice dans un pays où 10% des contribuables payent les trois quarts de l'impôt sur le revenu, où la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de 2011 est toujours en place 13 ans plus tard, où le taux marginal de prélèvement atteint 60%. Je refuse de céder à la facilité coutumière des temps difficiles, nous n'augmenterons pas les impôts. Voilà. Bruno Le Maire qui persiste et signe finalement.
Bah alors avec un taux de prélèvement en effet quasiment historique en France et une qualité de service public en face qui s'effondre chaque jour, on a le travail et le capital qui sont beaucoup trop taxés. Mais alors, où peut-on taxer ? Peut-être sur la consommation, mais en tout cas, ce débat sur les impôts efface complètement le débat de fond qu'on devrait tous avoir, qui est le débat sur les réformes structurelles.
Complètement. Oui, c'est, je pense que c'est, en fait, c'est surtout ça qui est dommageable dans les derniers jours qui viennent de se dérouler. On voit bien que Bruno Le Maire, il tient à honorer la promesse présidentielle, donc voilà, il est dans le même sillon. En même temps, il est vrai que ça donne un gage, enfin, il veut aussi entretenir sans doute un des mérites de ce qu'a fait le président Macron depuis qu'il est en place, c'est effectivement d'avoir quand même réussi à stabiliser la fiscalité dans une certaine mesure.
Ouais.
Et en effet, comme c'est quand même un atout, cette stabilité de la fiscalité, notamment pour attirer les investisseurs étrangers, il ne veut pas renoncer. Mais on regrette quand même qu'à cette occasion, puisque la stabilité, si on ne veut pas effectivement toucher aux impôts, et on regrette qu'effectivement il n'y ait pas eu une plus grande revue de ce que devrait être l'action de l'État pour effectivement regarder les dépenses de très près et sélectionner celles qui sont à privilégier si on effectivement ne veut pas toucher ces fameux impôts.
Il dit non aux impôts, hausse d'impôts. Je crois que dans son bouquin, il y a quand même une piste qui l'écarte pas fondamentalement, c'est celle de la TVA sociale, il me semble. Hein. La fameuse page 68 du bouquin.
Ouais,
dans la voie française.
Alors en fait, oui, alors il est sur il parle plutôt d'un transfert, lui, il dit pas augmentation. Mais moi ce qui me frappe, c'est quand même le peu de projection finalement dans la réflexion.
Et puis le peu d'idées.
C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'est surtout que ce sont des réflexions du 20e siècle. Parce que quand vous allez plus loin et que vous regardez finalement les transitions qu'on est en train de vivre, il y en a une qu'on oublie complètement alors Dieu sait si les autres sont pas forcément déjà alors la transition digitale, elle est en route, elle est inarrêtable, etc. La transition écologique, c'est un peu plus compliqué. Et pour réussir ces deux transitions, on en oublie une troisième sur laquelle on est au niveau de réflexion zéro, c'est la transition fiscale. C'est-à-dire qu'il y a bien un moment où, face d'un côté à des phénomènes quasi paranormaux en matière de fiscalité, c'est-à-dire par exemple l'effondrement des recettes au quatrième trimestre de 2023 qui plombe finalement les déficits, il y a quand même des explications à aller chercher. Et moi ce que je vois, c'est qu'on a finalement des vieux impôts qui rapportent de moins en moins et qu'il va quand même falloir s'interroger sur qu'est-ce que c'est qu'une fiscalité moderne, c'est quoi des basses taxables modernes. Quand vous voyez qu'on a des sources de revenus qui s'effritent, qui s'étiolent. Quand on va passer à la voiture électrique, plus on va passer à la voiture électrique, plus les recettes de taxes sur les carburants vont s'étioler. Comment on taxe?
Justement, une fiscalité moderne, c'est quoi?
Oui, mais comment on taxe l'immatériel? Franchement, la réflexion, elle mérite encore d'être aboutie. Deux, la fiscalité écologique, aujourd'hui, on est quand même proche de zéro. Il y a rien. La fiscalité, et voilà. Et donc, il y a quand même des questions à se poser sur la taxation de l'intelligence artificielle, si les robots remplacent... Enfin, je veux dire, il y a quand même des réflexions à conduire sur des nouvelles sources de recettes fiscales. Et là, franchement, on est toujours sur les vieux
Bruno
trucs
Coquet, TVA, CSG. Est-ce que vous me dites, comme Emmanuel Le Chip, qu'on est encore au Moyen-Âge sur les sujets de fiscalité?
Ah oui, moi je pense que ça, c'est qu'effectivement, c'est le 20e siècle. Quoi. Donc, alors après, il y a des vieux impôts qui sont super, la capitation,
oui,
l'impôt
sur le sel. Ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain.
Voilà, donc du coup.
C'est l'inventivité française.
Voilà, donc, mais bon, de temps en temps, il y a des bons impôts. Moi, dans le papier de Bruno Le Maire, c'est un grand romancier, hein, donc 95% de fiction et 5% de faits.
Donc, c'est pas mal.
Donc là, moi, il y a un truc, je suis d'accord, c'est sa conclusion. Il dit il y a un problème de niveau et d'efficacité de la dépense publique.
Et alors, comme paraphraser notre président, il faudrait qu'il en parle au ministre de l'économie.
On aurait aimé une stratégie, et on n'en a toujours pas. On a plein de plans dans tous les sens. Emmanuel en a cité quelques-uns. On a plein de petites stratégies, mais au fond, on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut faire. Donc on nous dit, il y a les dépenses sociales, mais on a oublié, il y a aussi des recettes sociales en face des dépenses sociales. L'essentiel du déficit ne vient pas de là. L'essentiel du déficit vient de la comme le dit le ministre des Finances, la faible efficacité de la dépense publique. Voilà. Et pour ça, ils ne nous proposent rien,
voilà, indépendamment des idées nouvelles sur l'impôt.
La fiscalité du XXe siècle, voilà, qui doit se réinventer.
Voilà. Ouais, rhabiller pour l'hiver.
Exactement.
Alors, un des sujets qui a fait beaucoup couler d'encre et qui a fait beaucoup parler aujourd'hui, on a vu les salariés et les membres de la direction de SEB manifester devant l'Assemblée nationale contre une proposition de loi portée par un député écologiste qui vise à interdire dans certains secteurs l'utilisation des fameux produits contenant ce qu'on appelle les polluants éternels.
Oui, alors, ce problème, c'est que ça concerne pas mal de secteurs, tout ça. Les cosmétiques, les textiles d'habillement, mais aussi, entre autres, les produits d'électroménager comme ceux que fabrique SEB, notamment les fameuses poêles Tefal. Et le DG de SEB était dans la Madif et il a dit clairement faire passer cette loi. Alors lui, il y va fort, il dit que ça pourrait jouer sur l'emploi, tout simplement. Écoutez Stanislas de Gramont aujourd'hui à Paris.
On a un certain nombre d'autorités internationales qui sont censées d'ailleurs protéger les consommateurs et les citoyens, qui ont émis un point de vue scientifique sur ces sujets-là. Ce point de vue est balayé d'un revers de la main sur des questions d'amalgame. Ah oui, mais comme on ne sait pas, on va mettre tous les PFAS. Ben nous disons non, parce que nous pensons qu'il y a une autre manière de faire la loi qui fait appel à la science, qui fait appel à la concertation, qui fait appel à la raison et au bon sens. Et voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Voilà.
Les PFAS, c'est l'autre nom de ces polluants éternels.
Oui, absolument.
Voilà, le collimateur.
Mais en fait, on est un peu à la croisée des problématiques écologiques, sanitaires et puis industrielles, mais ça me fait un peu penser au cas de l'amiante, parce qu'on a reconnu justement ces méfaits très tardivement, en tout cas en France, et on connaît les dégâts que ça a fait. Parce qu'aujourd'hui, ces PFAS, ces polluants éternels sont partout, Nathalie Janson.
Oui, effectivement, ils sont partout. Bon, moi, je n'ai pas la, je peux pas prétendre savoir dans le débat si qui a raison, qui a tort au niveau des méfaits. Bon, c'est sûr que on est toujours dans cette situation. C'est une situation délicate. Forcément, lui, l'industriel va mettre en avant que c'est l'emploi qui va être qui est le premier menacé, puisqu'il va pas convertir ses poils du jour au lendemain en autre chose. Maintenant, est-ce qu'effectivement
il
faut,
et en même temps, pourquoi pas, parce que enfin, il est pas nouveau ce sujet.
Non, il est pas nouveau, mais il a été débattu plusieurs fois. Effectivement, il est débattu puisque qu'à chaque fois, il y a eu des allers-retours. Ouais. C'est très cancérigène. Finalement, pas tant que ça. Donc,
voilà, parce qu'en fait, il faut préciser pour nos auditeurs qu'il suffit de changer une molécule pour que finalement, quand c'est interdit, ça soit
en fait, c'est finalement pas interdit. Exactement. Voilà. Donc, mais en effet, est-ce que c'est toujours pareil? Est-ce qu'il faudrait l'interdire définitivement du jour au lendemain? Est-ce que est-ce que les propositions alternatives pour avoir des produits similaires ne génère pas d'autres effets aussi néfastes? Voilà, je n'ai pas effectivement, j'ai pas
Bruno
Coquet scientifique là-dessus.
Ben moi déjà l'étiquetage, c'est quand j'achète une bouteille d'acide chlorhydrique, ça ne m'arrive pas tous les jours, mais c'est quand même écrit dessus que c'est dangereux. Donc quand on achète une poêle, c'est pas écrit. Donc c'est dangereux, il faut déjà l'écrire. Et donc en gros. Mais l'autre chose, moi ce qui me frappe, c'est que le monsieur Seb, il a pas tout compris au film. C'est-à-dire on dit la loi, elle dit qu'elle veut interdire la production, l'utilisation, mais aussi l'importation et la vente. Et donc du coup on lui supprime ses concurrents du jour au lendemain. Il pourrait faire un effort et il pourrait se dire voilà, je supprime la molécule qui va bien ou qui va mal. Ouais. Et donc, du coup, je rentre dans les clous de la norme. Mais bon, l'État va m'aider. Dans ces cas-là, on demande toujours à l'État.
Ah oui, donc vous voyez ça plutôt comme une opportunité, finalement, pour les industriels.
C'est une opportunité. On lui supprime tous ses concurrents du jour au lendemain. Et donc, du coup, il va préserver l'emploi. Il va même le développer. C'est ça qu'il devrait dire.
Emmanuel Le Chypre, qu'est-ce que ça vous inspire, vous qui cuisinez beaucoup?
Oui.
Ouais, alors pour le coup, ouais. Non, moi ce que ça m'inspire, c'est
qu'il se pose pas 10 000 questions quand il achète une poêle Tefal, apparemment.
Bah moi, j'utilise aussi tous les jours pour les crèmes de mes enfants.
Mais... Oh. Ah ouais. Alors Dieu sait s'il y en a une qui achète des produits
toxiques.
Ah, surtout pas. C'est bien Nathalie. Non mais ce que je veux dire, c'est bon, moi ce qui me choque, c'est que là encore, on est dans une situation très française, dans laquelle on est sur une espèce de confrontation. Assez stérile finalement, un peu comme le glyphosate, c'est-à-dire que vous pouvez confronter les points de vue pendant des jours, des mois, des semaines. Moi j'ai écouté des émissions entières avec des spécialistes, des journalistes spécialistes du glyphosate, et quand vous ressortez de là, vous savez toujours pas, et en attendant, on n'avance pas. Donc,
oui, donc il faut prendre une décision.
Non, voilà, ce que je veux dire, c'est que moi je suis frappé, de la part de beaucoup d'acteurs finalement, qui individuellement n'ont aucun sens de l'intérêt général. C'est-à-dire que ce député écologiste, ne se préoccupe que de la problématique de savoir si ses poils sont toxiques ou pas. Enfin,
il a quand même parcouru la France pendant 7 mois, il a fait des centaines de tests.
C'est que quand vous êtes un homme politique, vous devez vous préoccuper de tous les effets collatéraux des mesures que vous proposez. Oui, il y a un effet économique. Donc, prenons la décision, encore une fois, de bouger. Honnêtement, Seb... c'est une des entreprises les plus innovantes de France.
C'est vrai.
C'est-à-dire, c'est une entreprise qui a une capacité à inventer, à créer, et notamment dans son secteur de l'électroménager, où ils s'en sont toujours sortis en réussissant à vendre des produits innovants plutôt haut de gamme. Donc moi, j'ai une totale confiance dans Seb pour, effectivement, faire s'accommoder
pour
ça.
Pour le moment, on ne peut pas dire qu'ils innovent sur ce sujet-là.
Oui, mais en fait, ils doivent être. Vous ne croyez pas qu'ils ne sont pas en train de réfléchir chez Seb, dans les laboratoires, sur ce qu'ils peuvent faire pour remplacer ça?
Ah bah,
le directeur, lui, il est dans son rôle. Mais franchement, effectivement...
Oui, mais il aurait mieux fait
de prime abord la menace sur l'emploi de prime abord.
On manque de médiation. C'est-à-dire qu'on manque, entre les études qu'on se balance à la figure, chacun bien campé dans son camp idéologique... Et c'est le cas sur beaucoup de sujets qui ont trait à l'environnement. Prenez les bassines, prenez tout ça. Et personne n'essaye de chercher une sortie vers le haut qui pour tout le monde.
C'est-à-dire oui, mais c'est pour ça que les pouvoirs publics sont là pour justement essayer d'ouvrir une voie commune.
Pour le moment,
Bruno, très vite.
Pour détendre, je vois que Emmanuel a une dépêche d'agence qui nous dit qu'il y a une casserolade. C'est plutôt une poêlade, non?
C'est un peu ça. Un peu ça, les casserolades ou poêlades. Non, mais 600 salariés de Seb aujourd'hui devant l'Assemblée.
Guillaume, on supprime les concurrents, c'est formidable.
Comme ça, il est venu agiter la menace de l'emploi. Ce qui était peut-être un peu facile aussi de la part du DG de Seb de venir comme ça à brûle pour point agiter la menace de l'emploi.
Il demande de l'argent pour la mauvaise raison.
Oui, exactement. Il ferait mieux de parler de ses innovations.
Rendez-nous les bonnes vieilles poils qui attachent, là, lesquelles il faut mettre un kilo
de beurre. Moi, j'ai quand même pas beaucoup de regrets par rapport à ça.
C'est du patrimoine, ça, quelque part. Allez, c'est terminé, 18h58.
Alors, on a.
Tu sais, c'est si bon d'être ensemble.
Ah, voilà.
On est réunis pour toi, pour ton anniversaire.
Pour ton anniversaire.
Bravo,
c'est l'anniversaire d'Emmanuel Le Chiffre. Comme on dit, vous ne les faites pas, hein, Emmanuel.
Oh, c'est gentil, c'est sympa.
Ah bah, enfin, vous ne les faites pas, on ne sait pas. Vous avez...
Ah non, je ne sais pas.
On ne sait pas, mais il ne les fait pas.
Il est 18h58 et j'ai 58 ans.
Eh bien, en effet, voilà. Vous ne les faites pas.
Je disais qu'ils
étaient. Voilà, mais c'est ce débat tous les soirs qui vous rajeunit, Emmanuel.
Qui maintient jeune.
Eh bien, c'est ça. Bah, continuez, changez rien.
Voilà.
Merci, Emmanuel. À demain. Bruno et Nathalie vont revenir pour leur pénitence tout à l'heure, 19h15, 20h en direct. Et puis nous, on revient bien sûr dans un instant.
Eh oui, on continue de décrypter l'actualité économique pour vous. À tout de suite.